L'espace éducation, tel que vous le connaissiez, change de formule. Le livre Ouverture sur la vie est déplacé du mercredi au vendredi et chaque semaine, du lundi au jeudi, nous vous présenterons une série de 4 émissions. Cette semaine, je vous propose l'école, un pays où l'on arrive parfois. J'ai eu envie de prendre le contre-pied de deux livres qui sont sortis récemment, deux livres tout à fait excellents, « La violence à l'école » de Bernard de France chez Syros et « L'élève tête à claque » de Philippe Jubin chez ESF. Mais deux livres qui donnent un petit peu l'impression que l'école est un endroit où les personnalités se détruisent, qui analysent ces processus de destruction. Et j'ai eu envie donc de présenter des lieux où les personnalités se construisent. J'ai eu envie aussi de rendre hommage à Françoise Dolto, qui sera très discrètement mais présente cette semaine. Je vous propose d'abord un entretien avec Fernand Henry. Vous ne savez pas qui est Fernand Henry ? Je lui laisse le soin de se présenter.
Oh, bah, je pourrais raconter.
Jeune instituteur, vous êtes arrivé.
C'est-à-dire que je suis. À 19 ans, il m'est arrivé 45 garçons. C'était un cours moyen, première année, dans une école de banlieue. J'avais certainement pas l'esprit encombré parce que j'avais pas été normalisé à temps. J'ignorais l'enfant de 9 ans. J'ignorais le cours moyen. Mais je devais être intelligent à cette époque-là. Parce que j'ai vu tout de suite qu'ils étaient nombreux, 40.
Oui.
Et j'ai vu tout de suite qu'ils étaient vivants, en vie. Envie de faire, ça s'appelait l'agitation. Envie de dire, ça s'appelle le bavardage.
Oui. Tout ce qui est négatif, apparemment, vous a paru pouvoir être positif.
Ah, j'en sais rien. J'étais simplement, j'ai vu qu'ils étaient nombreux. J'ai vu qu'individuellement, ils étaient bien gentils, puis qu'en temps, ils étaient féroces. L'entassement des hommes, comme celui des pommes, produit de la pourriture. Alors quand on construit
des silos... Qui est-ce qui dit ça ?
C'est Mirabeau. C'est quand on construit des silos à enfants, faut s'attendre à des choses.
À des catastrophes.
On m'a dit, c'est eux ou toi. D'abord survivre, ça j'avais compris. Donc il s'agissait de les dresser à l'immobilité, au silence, qu'ils soient sages comme des images, après l'envie, l'en-mort. Je crois que ça s'appelle l'école libératrice.
Oui.
Il me restait à rêver d'une autre école.
Vous avez rêvé d'une autre école, puis vous avez participé à la construire, cette autre école.
C'est-à-dire que c'est toujours, je suis toujours avec mes 19 ans, puis tout ce que je vois, parce que quand on arrive... Là, ce que j'ai vu assez vite, c'est que la classe homogène est hétérogène. Ils sont tous différents. Et par l'âge, ils avaient de 8 à 12 ans. Et par la taille, le poids.
Vous avez vu qu'ils étaient différents, et donc vous avez eu envie d'agir, là-dessus est venue la guerre, et puis après...
Ah, mais j'avais trouvé quand même des choses. J'avais trouvé qu'il fallait leur donner à manger des choses différentes, puisqu'ils n'étaient pas... Parce qu'on leur donnait tous le même potage. Mais c'est que ça va loin, ça. Si on donne à tous le même potage et on dit... Il y a ceux qui digèrent, qui vont devenir grands, et ceux qui digèrent pas, qui vont rester petits. Et en même temps, on parle d'école de la démocratie. Alors, faudrait pas se foutre du monde, hein.
Vous m'avez
l'école
parlé d'un...
sera sur mesure ou ne sera pas.
Oui,
alors, c'est pas résolu.
Ça, c'est un de vos mots, de vos phrases, un de vos slogans importants.
Oui.
Vous m'avez parlé d'un sondage qui avait été fait, enfin, d'un travail de test qui avait été fait sur ces enfants. Sur l'intelligence de ces enfants.
Oh, c'est publié ça, en 1950 dans une petite brochure au Palais de la Découverte, et donc pour tout le monde. Tout le monde aurait pu remarquer ça. C'est un sondage, mais sur des dizaines de milliers d'enfants français. Et les enfants de 6 ans, il y en a 3%, 3 à 5% qui sont dits débiles. Et quand ils arrivent à 12 ans, il y en a de 10 à 15% qui sont débiles. Alors, qu'est-ce qui leur arrive aux petits Français?
Entre
6 et 12 ans, c'est une devinette. Il leur arrive rien. Rien qui puisse les intéresser, mais vraiment. On les apprend à ne rien faire, à ne pas faire. Et ça rend pas intelligent. Est-ce que c'est l'enquête de Gilles? Je sais pas. Enfin, c'est dans une petite brochure verte que j'avais. C'est des choses très anciennes, ça c'est... Je sais pas, ça me paraît d'une simplicité, tout ce que je raconte, là, ça n'a... C'est le suppléant qui arrive dans la classe, vous savez, ces malheureux qui n'ont pas, j'allais dire, subi l'école normale, non, qui n'ont pas profité pleinement de notre formation, c'est ce qu'ils arrivent, c'est ce qu'ils voient.
Patrick, alors, j'ai envie de me tourner vers vous, puisque vous, vous êtes dans la pratique, vous êtes un disciple de Fernand Henry, on peut dire des choses comme ça ?
Pas disciple, c'est Fernand Henry n'est pas Jésus, mais en fait, il a apporté quand même des outils qui sont directement utilisables dans les classes, quoi. C'est ce qui est intéressant.
Vous, vous êtes instituteur, puis rééducateur, vous avez travaillé en CAP.
J'ai été instituteur, rééducateur, et je suis revenu en classe de perfectionnement. Oui.
Donc vous préférez travailler avec les enfants qu'on met en perfectionnement, c'est-à-dire ceux dont plus personne ne veut.
J'ai l'impression que dans ma classe de perfectionnement, je faisais un meilleur travail avec tout ce qui est mis en place, les techniques, les institutions, que en prenant les enfants de façon parcellaire, comme ça, une fois ou deux par semaine, où j'avais plutôt l'impression, je les sortais de la classe, et j'avais plutôt l'impression de faire du bricolage. Or là, ce qu'on essaye de faire, justement, dans cette classe de perfectionnement, c'est que le milieu classe produise l'effet de les faire évoluer. Et sortir les enfants de la classe, en fait, ne me semblait pas la solution idéale. Quelquefois, il me semblait beaucoup plus intéressant de venir travailler avec eux dans la classe, quand j'étais rééducateur, plutôt que de les sortir de la classe.
Oui, parce que
venir dans un bureau.
Il faut peut-être rappeler que GAP, ça veut dire groupe d'aide psychopédagogique.
C'est ça, oui.
C'est un petit groupe de psychologues rééducateurs qui travaillent dans une école. Mmh. Qui permettent à l'instituteur qui a un problème avec un tel ou un tel de le sortir de la classe, de s'en débarrasser pendant une heure ou deux, ou de permettre à quelqu'un de l'aider, parce que je crois que vous le dites en termes négatifs, ça peut être positif quelquefois.
Non, quelquefois c'est positif, mais dans l'ensemble, il me semble que le travail de la classe est quand même beaucoup plus profitable.
Parce
que
oui, mais on sait de quelle classe on parle.
Oui. De la classe coopérative. Hein.
Alors, parce que en général, ça apparaît tout à fait logique que la classe abîme les gosses. La première chose que fait le psychologue, c'est de prendre une situation non scolaire. C'est bien ça, oui. Parce que s'il y a du scolaire, ben ces gosses qui ont vécu dans les fonds de classe, on va les y retrouver avec la réunification.
La réintégration.
L'intégration. Tous ces gosses, je ne sais pas, rappelle-toi, quand j'étais gamin, il y avait des grands qui étaient dans le fond de la classe. Ils essuyaient les tableaux, c'était des cancres. Alors, il y a eu tout un travail d'enseignement spécial. Il y a certaines classes, la mienne, par exemple, et bien d'autres, des classes de perfectionnement où l'insti était libre, vraiment, libre de ses méthodes. Et certaines classes étaient des oasis respirables dans l'école caserne. C'est pas, on a publié à peu près 40 monographies d'enfants. Mais ça ne compte pas.
Nous n'avons pas. Oui, d'ailleurs, les auditeurs se souviennent peut-être que nous sommes allés dans la classe de Catherine Pochet, qui avait publié dans ce cadre, avec vous, un livre.
Qui c'est le conseil
Non, qui s'appelait... C'est Miloud qui disait, l'année dernière...
C'était déjà Miloud.
L'année dernière, j'étais mort.
On a essayé d'aller jusque... Parce que vous imaginez le scandale que ça fait lorsque nous guérissons des enfants. Je me souviens d'une camarade révolutionnaire, contestataire, scandalisée. Et de quel droit vous êtes-vous permis de guérir Miloud ? Alors on a été assez loin en prenant des cas psychotiques des enfants très abîmés, dont les GAP ne veulent pas, dont les hôpitaux psychiatriques ne sont pas friands non plus. Et le dernier en date, c'est ce Miloud, qui était totalement perdu dans l'espace, dans le temps, qui n'avait pas de langage. Et on l'a mis, voilà de l'intégration. On l'a mis il a été dans une classe, dans un cours préparatoire, et il a grandi avec les autres, il est sorti d'affaire. C'est un gosse fou. Alors, qui peut le plus, peut le moins. Nous voulons démontrer que c'est qu'il est possible que la classe, au lieu d'être un agent de destruction des gosses, dans un climat d'asphyxie, dans l'école caserne, ça va revenir. Nous voulons démontrer qu'une classe peut être autre chose, et au scandale de tous, qu'elle peut guérir.
Oui, Patrick Vitzela. Vous avez des Miloud dans votre classe,
oui,
des enfants qui déclarent comme cela, soit qu'ils ne disent rien, soit qu'au bout d'un moment arrivent à dire « l'année dernière j'étais mort, maintenant je vis, grâce à la classe, grâce à l'école, je vis ».
Ils le disent peut-être pas en ces termes-là, mais en tout cas, effectivement, j'ai dans ma classe de perfectionnement des enfants qui, sur le plan scolaire déjà, n'avaient jamais démarré en lecture, et qui se mettent à apprendre à lire, qui se mettent à apprendre à compter, qui se mettent à apprendre à parler. Des enfants soi-disant mutiques, enfin qui étaient mutiques auparavant, pas soi-disant, ils étaient mutiques, qui petit à petit, grâce à l'entretien du matin, protégés par des lois, hein, cet entretien du matin, des lois où on ne se moque pas, on écoute celui qui parle, et ce qui se dit dans ce lieu-là ne sort pas de ce lieu-là, c'est-à-dire c'est secret, quoi, c'est notre secret à nous, et dans ces conditions-là, certains enfants se mettent à parler, à évoluer, à grandir. Et on peut le vérifier tous les jours, pratiquement.
Donc, alors, ce lieu-là, cette classe-là, alors, il faut peut-être dire un mot de cette classe-là, de cette pédagogie institutionnelle, qui repose sur trois pieds. Oui, ça me plaît bien, ça, cette histoire de classe qui marche sur trois pieds, c'est-à-dire sur des techniques qui sont les techniques Freinet.
Oui, et qui pourraient être autre chose, du reste. Bon,
c'est pas nécessaire, c'est pas nécessairement du Freinet. Vous ne vous sentez pas lié au mouvement Freinet.
Ah là, oula, vous en dites des choses à la fois. Allez. Il s'agit d'essayer d'expliquer ce qui se passe dans une classe coopérative et nous avons pensé, là c'est le problème du premier coup, qu'il fallait trois dimensions au moins, trois éclairages. Et alors, un copain avait fait l'image d'un trépied, avec trois crayons et un élastique, et on lui demandait ce que c'était que la pédagogie institutionnelle, il avait donc posé ses trois crayons sur la table en faisant remarquer que ça tenait debout. Alors, d'abord, le pied matérialiste, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une production échangeable, qui va faire médiation entre l'enfant, enfin entre les élèves, et le maître. De ce côté-là, alors, Freinet, avec son journal.
Le journal de l'imprimerie,
d'autres travaux aussi. Makarenko, avec ses productions vivrières, quoi.
Oui, Makarenko, donc, le grand pédagogue soviétique.
Oui, et d'autres. D'autres, alors, comme idée, le matérialisme, je pense qu'il n'y avait pas un certain Marx qui s'occupait de ça, puis vaut mieux le dire, le Freinet, dans les années 20, c'était quand même l'éducateur prolétarien, son journal. Donc, un premier pied. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, quand ils sont seuls, ils sont gentils, et quand ils sont en groupe, ils sont féroces. Et j'avais remarqué, d'une façon fort intelligente, qu'ils étaient nombreux. 40 dans une classe, 600 dans une cour. Si l'insti ne tient pas compte du groupe, et des techniques de groupe qui peuvent, de ce qui peut se passer dans les désignations de bouc émissaire, enfin bon, pour faire. Donc, un deuxième pied, le groupe.
Une psychologie de masse.
Comment?
Une psychologie de groupe, de masse.
Disons, Lewin, Moreno, Anzieux, c'est étudié, ça pourrait faire partie pas d'apprendre dans les livres. Mais des entraînements, ça pourrait faire partie d'une formation des futurs instits qui vont se faire bouffer dans les classes prochainement. Mais enfin, on n'en est pas là. On en est encore, même pas à Jules Ferry. Et puis alors, là, j'ose pas, parce que
Alors, le troisième pied. On y va sur le bout des doigts de pied.
Oui. Freud est toujours interdit de séjour au royaume de Jules Ferry. Alors, le troisième pied, c'est l'inconscient. Parce qu'on n'accroche pas son inconscient au porte-manteau en entrant dans la classe. Il ne s'agit pas de faire de trifouiller les gosses. Il ne s'agit pas de faire de la psychanalyse à l'école. C'est même le contraire. Nous voulons une pédagogie qui tienne compte de l'inconscient pour que le moins possible, l'insti se trouve en situation duelle qui réclamerait des compétences en psychothérapie.
C'est-à-dire que l'instituteur n'est pas un psychanalyste, mais c'est quelqu'un qui sait que ça existe,
qui
utilise le groupe et le fonctionnement du groupe pour canaliser cet inconscient pour lui.
Pour voir un peu ce qui se passe. Parce que la totale ignorance, c'est comme la totale ignorance de l'inconscience, c'est à peu près comme un chirurgien qui ignorerait les artères, qui couperait l'artère. Et maintenant, alors on peut citer les noms de Freud, de Lacan, de Dolto.
Ben oui, il faut quand même que nous disions un mot de Françoise Dolto, avec qui vous étiez lié, vous aviez travaillé avec elle.
Ben oui, parce que le médecin d'éducation s'intéressait à notre travail, il s'intéressait aux instituteurs thérapeutes, en quelque sorte. Alors, nous avez gentiment fait la préface de notre premier livre en 1967, vers une pédagogie institutionnelle, et de temps en temps, enfin, nous étions restés en relation.
Un mot, ce terme de pédagogie institutionnelle vient d'où ?
Hein, j'allais y arriver, c'est qu'il faut signaler l'existence d'un autre groupe à côté, avec le docteur Toscaïès, Jean Houry.
C'est d'ailleurs votre frère ?
Qui est mon frère, oui. Et il y a tout un... Alors, si bien que sur le plan théorique, il y a une avance de fait, parce que on retrouve le trépied en milieu psychiatrique. Et ce qui est quand même assez favorable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin pour avoir des points des contrôles ou des points des contrôles théoriques, quoi. On a moins de chances de dire des bêtises quand on a un groupe de contrôle.
Et on parle de psychiatrie institutionnelle et de pédagogie institutionnelle.
Voilà. Alors c'est Jean Houry qui a proposé ce terme de pédagogie institutionnelle en 1958. C'était pour souligner le parallélisme qu'il y avait entre les techniques avec les malades et les techniques avec les enfants.
Il nous reste juste peut-être une toute petite minute pour dire concrètement, rappeler concrètement pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu ce qui s'est passé quand nous étions dans la classe de Catherine Pochet, comment ça se passe, c'est-à-dire ce qui différencie une classe coopérative de pédagogie institutionnelle d'une autre classe, Freinet ou autre d'ailleurs. C'est les institutions, c'est le fait que vous vous donniez des institutions.
En une minute, c'est un peu rapide, mais effectivement, je crois que ce qui différencie, c'est qu'on essaye au maximum de donner du pouvoir à des enfants, hein, qu'ils organisent eux-mêmes avec le maître. Le maître a le pouvoir aussi dans la classe, mais que les enfants aient aussi le droit d'organiser ce milieu dans lequel ils vivent, de modifier, de proposer des lois,
de faire la loi
avec le maître. Et le maître est lui aussi soumis à la loi proposée par le groupe.
C'est-à-dire que ça fonctionne comme une assemblée constituante, presque permanente.
La réunion importante, disent les petits.
C'est la réunion importante, c'est le conseil, et c'est ce conseil qui a lieu, dans ma classe par exemple, deux fois par semaine, qui donne du sens à tout ce qui se passe là, qui remet où sont verbalisés les conflits, où la classe est organisée, où la production est organisée. Enfin, c'est ce conseil qui donne sens à la classe.
Et puis aussi le quad neuf.
Alors le quad neuf est un autre moment de parole. Il y a trois moments de parole un peu différents. Il y a le conseil où on décide, en fait, on organise. Il y a le quad neuf le matin où on raconte des choses vraies qui se sont passées depuis le dernier moment où on s'est vu.
Et où les enfants peuvent dire n'importe quoi.
Ce qui s'est passé réellement, dans leur existence, depuis le moment où ils ont quitté l'école la veille au soir et le lendemain matin. Et le troisième point qui est le choix de texte, où là, ils ont la possibilité d'une parole, de parler de l'imaginaire. Ils ont la possibilité d'inventer des histoires imaginaires, de raconter des rêves ou des histoires vraies. Et là, c'est un moment où on peut inventer, où on peut imaginer tout ce que l'on peut. Et il y a une distinction entre ces trois moments de parole très différents.
Oui, parce que les choses sont quand même... C'est relativement rigide, une classe institutionnelle.
C'est pas rigide, c'est structuré.
C'est structuré.
Et c'est aussi loin de la classe autoritaire rigide que de la classe vaporeuse, l'école sans loi, qui a fait tant de dégâts dans les années 60.
Oui, parce que vous êtes tout à fait, vous êtes contre l'école caserne, l'école en régiment, mais vous êtes aussi également contre l'école hippie.
L'école sans loi. Ouais. L'école de rêve avec des petits Émiles au curose qui se promènent et qui s'épanouissent comme des fleurs, comme des légumes. Non.
Les enfants ne sont ni des fleurs, ni des légumes. Sinon, c'est ça, l'école peut devenir...
Un oasis respirable, le mot de Kessler.
Et demain, nous verrons si des enseignants peuvent construire pour eux une oasis respirable. C'était une émission de Pascal Bouchard, réalisation Brigitte Rivouet.